Eh bien, on a tous entendu parler de ces rumeurs selon lesquelles Walt Disney, vous connaissez Walt Disney qui est décédé maintenant depuis plusieurs années, on a tous entendu ces rumeurs voulant qu'il se fasse congeler, préserver, espérant qu'un jour la technologie, les recherches médicales permettent de reprendre le corps et renverser les effets de la maladie et le ramener à la vie. Eh bien, depuis quelque temps maintenant, on a des commentaires, des documentaires à la télévision qui nous permettent d'avoir un aperçu à ces cliniques, parce que ces cliniques existent vraiment. Et c'est le cas d'une clinique qui se trouve en tout près de Détroit, qui s'intitule l'Institut Cryonics, clinique de cryogénie. Et le laboratoire a une centaine de corps congelés. Ils préservent les corps à basse température, espérant qu'un jour la technologie permette finalement de pouvoir réanimer ses corps et guérir finalement les maladies qui sont là. Le directeur de l'Institut, Miles Cale et Josh Khoury, ont fait un documentaire de 10 minutes qui donne justement un aperçu du processus assez complexe de toute la congélation de ses corps. Leur vision est de préserver les corps pour l'avenir et les ramener un jour. Voici ce que dit le directeur de la clinique. Il dit « Je pense que l'avenir sera plus gentil et plus doux que le présent. » Beaucoup d'argent, voire même des millions de dollars, sont dépensés pour essayer de résoudre le problème de la mort. Et on est certainement pour la recherche scientifique pour essayer de guérir les cancers, les maladies, absolument. Mais on veut aller un peu plus loin. D'ailleurs, c'est ce qu'on découvre avec Google. En 2013, on pouvait découvrir, voir cette page couverture de la revue Time, il y a à peine 2 ans. Et avec ce titre, « Google peut-elle résoudre la mort? » Le président de Google annonçait une nouvelle division appelée Calico, dans laquelle on va dépenser de l'argent, évidemment, pour faire la recherche puis développer des médicaments et tout ça. Mais ils veulent aller un peu plus loin pour essayer de résoudre, au dire de ces gens, le problème de la mort. D'ailleurs, les éditeurs du magazine Time ont posé la question « Pourquoi Google, une compagnie de haute technologie, dépenserait autant de millions sur une certitude qui est absolue, la mort? » Surtout que nous savons que quelqu'un a résolu le problème de la mort, n'est-ce pas? Et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Il est mort, il est revenu à la vie et il est ressuscité. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, à cette occasion de Pâques, de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, même dans le temps, les gens étaient très surpris parce que les Juifs, imaginez, croyaient qu'il y aurait qu'une résurrection qu'à la fin des temps et ce serait tous les Juifs ensemble qui reviendrait à la vie. Ils ne croyaient pas qu'un individu puisse revenir à la vie, comme ça a été le cas de Jésus. Alors, même les disciples étaient surpris, même si ça avait été quand même enseigné depuis des centaines d'années dans l'Ancien Testament, mais que Jésus-Christ soit revenu à la vie. Dans son livre « Risen, 50 Reasons Why the Resurrection Changed Everything », ressuscité, 50 raisons que la résurrection a tout changé. Stephen Matheson fait cette observation. Il dit « C'est vraiment étrange ». Mais la mort de Jésus reçoit plus d'attention que la résurrection de Jésus. Pourtant, la résurrection de Jésus a vraiment tout changé. C'est la plus grande nouvelle pour les êtres humains qui vivent dans un monde qui est brisé et qui viennent au monde séparés de Dieu à cause de leurs péchés. La résurrection de Jésus fait partie des deux événements marquants. Deux réalisations marquantes et essentielles que lorsque tu les prends ensemble, ça forme l'Évangile, qui veut dire la bonne nouvelle. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 dit ceci, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » La bonne nouvelle, l'Évangile, qui sauve, qui nous sauve de notre péché, comprend essentiellement deux éléments. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité le troisième jour. Et Paul donne deux preuves vraiment intéressantes. Il dit, premièrement, la parole de Dieu confirme la résurrection. Ces deux événements majeurs ont eu lieu et elles ont été prédites, annoncées des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est un miracle en soi. Mais deuxièmement, l'histoire confirme la résurrection. Plus de 500 personnes ont vu Jésus une fois qu'il est revenu à la vie. Regardez l'argument de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Voici ce qu'il dit. Il dit, « Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, comme les Écritures l'avaient déjà annoncé des centaines d'années. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Et il continue au verset 7, qui dit ceci. « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, dit l'apôtre Paul. » Remarquez bien l'argument, ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Paul n'est pas en train de dire, il y a plusieurs années, là, Jésus est apparu à 500 personnes. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, Jésus est apparu à 500 personnes et la plupart de ces 500 personnes sont encore en vie aujourd'hui. Vous pouvez aller les voir pour confirmer. Voyez-vous l'argument? C'est très fort. Il y a des témoins oculaires vivants en ce moment que vous pouvez aller voir et consulter et leur demander si c'est vrai. Et des centaines de personnes. Alors, deux preuves. Les Écritures qui annonçaient déjà des centaines d'années avant que Jésus allait ressusciter, mais en plus des plusieurs centaines de témoins qui l'ont vu. Voyez-vous l'argument de Paul? Voici la bonne nouvelle, bien-aimés. La résurrection de Jésus a changé vraiment le monde. Pour ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, la résurrection, sa résurrection, les a changés profondément. Une personne qui vient à Jésus-Christ n'est pas parfaite. Elle a ses défauts et tout ça, elle continue, mais elle grandit dans le Seigneur. Mais il y a plusieurs choses qui se passent, qui se produisent lorsque tu demandes à Jésus d'entrer dans ton cœur. Et on va voir quelques-unes de ces choses tout au long du message. Et c'est ce que Pierre dit dans sa lettre. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi, à venir me rejoindre dans 1 Pierre chapitre 1. En fond, c'est la première lettre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1. Et j'aimerais vous lire deux versets qui se trouvent dans le premier chapitre. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Qui dit ceci, 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Maintenant, Pierre commence en louange. Il ne peut pas s'empêcher que d'adorer Dieu. Il loue Dieu, il remercie le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il commence. Pourtant, Pierre n'a pas gagné la 649, là. Il n'a pas gagné 30 millions, là. Au contraire, d'ailleurs, la lettre s'adresse, premièrement, le thème, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance dans la lettre et les gens à qui s'adresse cette lettre vivaient de l'opposition à cause de l'Évangile. Voyez-vous, le christianisme n'était pas légal et les gens souffraient à cause de l'Évangile. Ils étaient persécutés. Mais pourtant, la lettre est pleine d'espoir. La plupart s'entendent pour dire que tout ce passage décrit l'espoir du chrétien, l'espoir que nous avons comme enfants de Dieu. Ce passage est plein d'espoir. Pierre ne regarde pas l'avenir avec découragement. Au contraire, il est très positif, il est très encouragé. Il a une immense espoir et son espoir est ferme. C'est du solide, là. C'est réel. Il ne peut pas s'empêcher de louer Dieu et d'adorer Dieu, car son espoir est fondé sur la résurrection de Jésus-Christ. À mesure qu'il considère qu'il réfléchit à tout l'impact de la résurrection sur nous, il ne peut faire autrement que de louer Dieu et de remercier le Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin à l'occasion de Pâques. On veut adorer et remercier le Seigneur pour la résurrection de Jésus-Christ. Voici quelques raisons de louer le Seigneur ce matin pour la résurrection. Tout d'abord, la résurrection de Jésus a tout un impact sur nous et c'est grâce à Dieu. Ça relève de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Regardez ce que Pierre dit au verset 3. Il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. C'est vraiment par la miséricorde de Dieu, par sa grâce, par sa compassion et son amour qu'il va nous sauver, qu'il nous donne la vie éternelle. C'est pas une question de mérite, c'est pas parce qu'on le mérite ou qu'on travaille fort pour essayer de mériter notre place au ciel pour l'éternité. Au contraire, nous sommes des pécheurs, mais c'est par la grâce de Dieu, cette grande bonté. Et Pierre se sert d'un mot ici qui est miséricorde, qui donne à penser à la compassion. Il va s'en servir dans le contexte du salut, au même titre que Paul va se servir du mot grâce dans ses lettres. Une autre raison d'adorer Dieu pour la résurrection, c'est qu'à travers elle, nous avons une vie nouvelle. À travers la résurrection, Dieu nous donne une vie nouvelle. Regardez ce que Pierre dit au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. » Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a fait naître de nouveau. Imagine-toi donc lorsque tu demandes à Jésus-Christ d'entrer dans ton cœur, lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, que tu crois qu'il est allé à la croix pour prendre ta place à la croix, pour prendre sur lui tes péchés, il te donne la vie éternelle. Il te fait naître de nouveau. Une version de la Bible le rend ici. Il nous fait renaître, une nouvelle naissance spirituelle. Es-tu né de nouveau? As-tu passé par l'expérience de la nouvelle naissance? Alors, je vous dis qu'il y a des gros changements qui ont lieu à la nouvelle naissance. Et je te souhaite ce matin, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, de demander à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie, qu'il te donne la nouvelle naissance. Place ta foi en Jésus, dans sa crucifixion et sa résurrection. Dieu nous fait renaître. C'est la nouvelle naissance. Et ça fait référence, cette expression-là, la nouvelle naissance, à tous les changements que Dieu opère en nous dès le moment que nous naissons de nouveau. Il nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, à la nouvelle naissance. Nous recevons le pardon des péchés, la justification, la rédemption, la réconciliation avec Dieu. Un chant que nous avons chanté, la colère de Dieu a été apaisée. Parce que nous avons été des ennemis de Dieu, nous avons été pécheurs, nous avons placé Dieu dans le coffre arrière comme un pneu de rechange et on sortait juste qu'on avait des problèmes. On l'a traité, on l'a blasphémé et Dieu est en colère. Justement, c'est avec justice, sa justice, c'est en droit de juger et d'être en colère contre nous parce qu'il nous a créés, il est notre créateur. Mais voyez-vous, Dieu nous aime tellement aussi qu'il a envoyé son Fils unique à la croix, afin qu'à la croix, Jésus puisse prendre sur lui ce jugement que l'on méritait, ont été transférés sur les épaules de Jésus-Christ. C'est ça la réconciliation avec Dieu. En plus, nous lisons que la nouvelle naissance nous procure l'adoption, où Jésus fait de nous, nous adopte, il fait de nous ses enfants. On parle de la sanctification, où Dieu commence à nous changer et nous rendre de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Nous recevons aussi le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter dans notre cœur et la puissance du Saint-Esprit qui vient dans notre vie. Nous avons maintenant un Sauveur, un Père céleste, un médiateur qui se tient auprès du Père, qui intercède pour nous. Nous recevons un nouveau cœur, une nouvelle connaissance, un nouveau réconfort, une nouvelle assurance, une nouvelle vie en lui. Plein de changements ont lieu à la nouvelle naissance. Et c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est son œuvre, c'est lui qui le fait. Alors Pierre ne peut pas faire autrement que de bénir Dieu, remercier le Seigneur, d'avoir un cœur tellement reconnaissant. Il dit, béni soit Dieu. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection. La résurrection nous assure aussi un espoir vivant. Verset 3 dit, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus, pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. C'est pas n'importe quel espoir. C'est un espoir qui est vivant, qui est réel, qui est authentique. C'est vrai, ça. C'est un espoir qui est dynamique, confiant, plein d'assurance pour l'avenir. C'est un espoir qui est ferme. Un espoir vivant. D'ailleurs, Wayne Grudem suggère que Pierre aurait en tête ici l'idée de croissance. Un peu comme un enfant qui grandit. Eh bien, lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ, il est comme un enfant spirituel, il commence à grandir. Et à mesure qu'il grandit, qu'il découvre Dieu, qu'il commence à connaître Dieu, sa relation avec Dieu s'enrichit. Et à mesure qu'il grandit dans sa connaissance avec Dieu, dans sa communion avec Dieu, dans son intimité avec Dieu, eh bien, tu as cette assurance, cet espoir qui grandit aussi. Tu as ce cœur qui est de plus en plus calme, confiant, que Dieu est présent et s'occupe de lui. Pour Grudem, c'est une bonne manière de mesurer notre maturité chrétienne aussi. C'est l'espoir pour l'avenir, pour l'éternité. Grudem donne l'exemple des chrétiens qui ont des années dans le Seigneur et qui marchent avec Dieu. Il dit, regardez comment c'est beau de voir comment ils n'ont pas peur ni de la vie ni de la mort. À mesure même qu'ils s'approchent de la mort, il y a une tranquillité, une paix dans leur cœur parce qu'ils savent qu'ils s'en vont retrouver leur maître, le Seigneur Jésus. Ils sont pleins d'espoir. Un Japonais racontait qu'au Japon, on a peur de la mort parce qu'on ne croit pas à la vie après la mort. Mais il parle de sa grand-mère qui a 99 ans, imaginez. Une femme qui aime vivre. D'ailleurs, elle a juste arrêté de jouer au tennis il y a 2 ans, à 97 ans. Une femme pleine d'énergie, dynamique, qui n'a pas peur de la vie, mais qui n'a pas peur aussi de la mort. Mais pourtant, pourquoi? Parce que, voyez-vous, à l'âge de 70 ans, cette femme a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Et Jésus est venu dans sa vie, il est venu dans son cœur, et ça l'a complètement changé la vision de la vie et la vision pour l'éternité. Complètement changé. Maintenant, tout le monde dans la famille espère qu'elle va se rendre à 100 ans, franchir cette ligne-là, 100 ans, centenaire. Mais pour elle, c'est pas important, voyez-vous. Elle, pour elle, à mesure qu'elle vieillit, à mesure que son corps même s'affaiblit, devient de plus en plus faible, elle a cette tranquillité dans le cœur qu'elle s'en va retrouver le Seigneur Jésus. Ça change complètement notre vision de la vie et de la mort, venir à Jésus-Christ. Jean 11, 25 dit ceci, c'est Jésus qui le dit. Il dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Quand on vient au Seigneur Jésus et qu'on place notre foi en lui, on reçoit une espérance qui est vivante. On ne peut pas vivre sans espoir. Pensez-y, là. On ne peut pas vivre sans espoir. Paul Tripp, dans un de ses livres, a dit quelque chose de vraiment intéressant sur l'espoir. Il dit, « Si vous commencez à porter attention à ce que les gens disent autour de vous autres, vous verrez à quel point les gens sont obsédés par l'espoir. » Pensez-y, là. Il dit, tout ce qu'on fait jour après jour carbure sur l'espoir. Alors qu'elle se prépare pour aller à l'école, la petite fille de 8 ans dit à sa mère, « Oh, j'espère vraiment que les filles à l'école vont m'aimer. » Maman, de son côté, dit, « J'espère que mon mariage ira mieux. » L'adolescent, Timothée, dit à ses amis, « Oh, je me suis trouvé un emploi et je vais pouvoir travailler le soir. J'espère que ça va être correct et ça va bien aller. » Papa, lui, de son côté, s'inquiète et il espère ne pas faire partie des coupures à son emploi. On espère se trouver des amis. On espère avoir de bons résultats à l'école. On espère être en bonne santé. On espère se marier. On espère que notre mariage ira bien. On espère que notre mariage ira mieux. On espère que nos enfants grandiront bien. On espère avoir le courage de faire face à ce qu'il faut. On espère avoir la force de passer à travers. Nos vies carburent et sont dirigées par de l'espoir. Ce que nous cherchons tous est un espoir qui ne décevra pas, qui ne nous laissera pas tomber à la fin. Nous voulons tous nous convaincre que ce en quoi nous avons placé notre espoir va livrer la marchandise. On veut que ce en quoi nous avons placé notre espoir nous donne la paix. Vous demandez à ce qu'il vous donne une raison d'être, une raison de vivre, une raison de continuer. Vous lui demandez de vous aider à passer à travers les difficultés et les déceptions. Vous lui demandez de vous procurer de la joie le matin et la paix le soir. Mais dit Tripp dit ceci en conclusion, il dit c'est beaucoup demandé. Si l'espoir vous déçoit, c'est que vous n'avez pas placé votre espoir au bon endroit. Romains 5 parle d'un espoir qui ne te décevra pas, même dans les moments difficiles. Laissez-moi vous lire ce passage. Dans Romains 5, il dit ceci, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance. » De prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Vous savez, lorsqu'on parle en français, on parle de l'espoir. On dit « j'espère que ». Il y a un doute dans le mot, soyons honnêtes. Par exemple, tu dis « j'espère que je vais arriver à l'heure ». Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, bien, ça se peut que j'arrive en retard. Il y a un doute en français. Quand on parle du mot « espoir » en français, ça comprend un doute. Mais vous voyez, dans les Écritures, c'est différent. Lorsque dans les Écritures, on parle de l'espoir, dans un contexte de Dieu, il n'y a jamais de doute. Le mot ne comprend pas de doute. Il n'y a pas de doute à l'endroit de Dieu. Tu peux mettre ton espoir en lui. Lui ne te laissera pas tomber. D'ailleurs, ce que ce passage nous enseigne, c'est que l'espoir, en fait, n'est pas une chose ni un événement, mais une personne. Cette espérance ne trompe pas. Nous plaçons notre espoir sur une chose ou un événement, mais l'espoir qui ne déçoit pas, qui ne trompe pas, qui est du solide, qui est certain, ferme, qui va livrer la marchandise, c'est une personne. Qu'on le réalise ou pas, qu'on soit conscient ou pas, Jésus est l'espoir que ton cœur cherche. Que tu en sois conscient ou pas, cette soif que tu as dans ton cœur, ce désir, ce que tu recherches au fond de ton cœur, en fait, c'est Jésus-Christ. Lui va combler le vide qui est là. Lui va te donner de l'assurance lorsque tu places ton espoir en lui. Le philosophe André Comte Sponville a dit ceci, il dit, nous passons notre vie à courir après quelque chose qui nous manque. Avez-vous remarqué? Nous passons notre vie à courir après quelque chose qui nous manque. Paul Tripp continue en disant, ce que notre cœur espère trouver, en fait, c'est la vie à son meilleur, c'est la vie abondante. Les gens autour de nous peuvent nous aimer, mais ça ne nous donne pas la vie. Ils peuvent nous respecter, mais ça ne nous donne pas la vie. Certaines situations peuvent s'améliorer, améliorer la qualité de notre vie, mais ça ne nous donne pas la vie. On ne trouvera jamais l'espoir vivant, réel, l'espoir qui va durer, qui ne nous trompera pas, qui ne nous laissera pas tomber dans des choses. On va le trouver, non pas à la verticale, mais à l'horizontale, mais à la verticale, au pied du Seigneur Jésus. Il est l'espoir. Ed Clown, et le résumé est celui, il dit, notre espoir est ancré dans le passé. Il est ressuscité. Notre espoir demeure au présent. Il vit. Et notre espoir sera parfait, car Jésus revient. Pierre l'avait bien compris, c'est pour cette raison qu'il peut s'empêcher d'adorer Dieu pour toute cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante. Nous avons raison d'adorer Dieu pour la résurrection, car grâce à Dieu, dans sa grande bonté, nous avons une vie nouvelle, une espérance vivante. Mais ça ne finit pas là, nous avons aussi tout un héritage qui nous attend, les amis. Tout un héritage. La résurrection nous assure un héritage, verset 4 qui dit ceci, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé au ciel. Réalises-tu que si tu places ta foi en Jésus-Christ, mon ami, t'es riche. Tu ne le sais pas encore? Peut-être que oui, mais tu es multimillionnaire. Amen? C'est à peu près comme la jeune fille ou le jeune gars qui est mineur. Ses parents sont multimillionnaires. Puis ils ont légué des fonds pour lui ou elle, à l'âge de 18 ans, il va pouvoir juste prendre possession de ses millions. Eh bien, nous autres, c'est le contraire. En fait, oui, il y a tout un héritage qui nous attend, mais déjà, nous recevons un gage, un dépôt de cet héritage, puisque le Seigneur vient habiter dans notre cœur, n'est-ce pas? C'est toute une richesse. Mais un héritage nous attend. Il nous est réservé dans le ciel. Cet héritage est gardé pour nous. Et si l'héritage est gardé pour nous, nous sommes gardés pour cet héritage, n'est-ce pas? Si un héritage nous attend au ciel, c'est que nous sommes attendus au ciel. Maintenant, Pierre ne parle pas seulement d'un trésor, parce que lorsqu'on parle d'héritage dans les Écritures saintes, dans la Bible, on parle de la terre d'Israël. C'est un héritage que Dieu a légué, a donné au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Alors, quand on parle d'héritage, on ne parle pas juste de trésor. on parle aussi de cette terre. Et c'est vraiment important parce que Pierre, ici, nous fait penser à ce bel héritage. Regardez bien ce que ça implique. Dieu a donné la terre de Canaan à son peuple Israël comme héritage. Et sur cette terre, ce qu'il a fait, il a divisé les portions de terre à différentes tribus, différentes familles, et il a donné les droits de propriété de ces bouts de terre à ces tribus. Maintenant, alors que le peuple d'Israël se trouvait dans le désert, qu'il marchait à travers le désert pendant 40 ans pour se rendre sur la terre promise et recevoir l'héritage, pendant qu'ils étaient en chemin et qu'ils marchaient et qu'ils traversaient le désert pendant les 40 ans, Dieu, par sa présence, en fait, les guidait à travers ce voyage, mais en même temps, la nuit, alors que le peuple se reposait, il protégeait et gardait son peuple par un mur de feu. Donc, à travers ce voyage, pour se rendre à la terre promise, Dieu les guidait le jour et les gardait la nuit pour s'assurer qu'ils se rendent à la terre promise et reçoivent leur héritage. D'accord? Nous découvrons en lisant le Nouveau Testament que nous sommes le peuple de Dieu et que nous marchons maintenant comme des pèlerins, comme des voyageurs, des étrangers sur terre parce que nous sommes en chemin, en voyage vers cette terre promise qui nous est promis. Cet héritage qui est l'éternité, où nous allons entrer dans l'éternité, nous recevrons l'héritage que Dieu nous a préparé d'avance et qu'il va nous donner. D'accord? Notre héritage comprend une nouvelle terre, de nouveaux cieux, mais c'est également tout ce que Dieu en réserve pour nous. Il nous donnera son salut éternel, un nouveau corps glorifié. Il n'y aurait plus de douleur, plus de larmes. Ça va être de la joie parfaite et le plus grand héritage qui soit. C'est Jésus lui-même. Nous serons face à face avec lui. Alors nous adorons Dieu pour la résurrection, car grâce à Dieu, par sa grande bonté, nous avons une vie nouvelle, une espérance vivante, un héritage qui nous attend, et nous sommes gardés pour ce grand jour. Regardez bien ce que le verset 4 dit. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, et il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés. Voyez-vous ce mot ici? Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Maintenant, notre héritage n'est pas seulement gardé, mais nous sommes gardés pour l'héritage. Notre espoir, c'est que la même puissance qui garde notre héritage nous garde aussi. Nous sommes gardés pour ce grand jour du salut. Le mot garder, c'est vraiment intéressant. C'est un mot, dans le fond, qu'on employait dans le contexte militaire. C'est être sous la garde des soldats à Rome. En tout cas, ce mot, quand tu le regardes dans le contexte, c'est se servir de ce mot militaire, ce que Dieu est en train de dire, écoutez, je veux que vous sachiez que mes yeux sont sur vous et je vous garde. Vous êtes sous haute surveillance de la part de Dieu. Dieu veille sur vous. Il vous garde. Mes chers amis, vous êtes sous haute surveillance. Comment c'est rassurant de savoir ça lorsqu'on passe par des moments, là, mon ami, difficiles de savoir et Dieu veut que tu te rappelles, je suis là, mes yeux sont sur toi. Dieu nous a placés sous haute surveillance afin de nous garder en sécurité pour ce grand jour du salut. Tout comme Israël qui marchait dans le désert pour se rendre sur la terre promise et qui était conduit, dirigé par le Seigneur, par la nuée, par sa présence le jour, gardé la nuit par le mur de feu. Nous-mêmes qui sommes des pèlerins sur la terre, des voyageurs sur la terre, des étrangers, nous nous rendons, nous sommes en chemin vers la terre promise qui nous attend, l'éternité, pour recevoir le grand héritage, notre héritage. Dieu est en train de nous dire, je vous garde, je veille sur vous, je vous dirige, je vous conduis, je suis souverain. Ta vie est entre mes mains et je te protège. Comme je protégeais le peuple d'Israël dans le désert et que lorsque ma présence était comme un mur de feu. Imaginez, c'est pas pour rien donc que Paul dans sa lettre, ça a du même mot militaire, lorsqu'il parle de l'inquiétude, parce qu'elle a tout un impact sur nous ça. Ça a un impact parce que lorsque tu pars à travers des moments qui sont difficiles, qui sont menaçants, rappelle-toi que Dieu veille sur toi. Le même mot employé dans Philippiens, regardez bien Philippiens 4:4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Hey, les chrétiens devraient être les gens les plus joyeux sur terre, les plus heureux sur terre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de rien. Oui, il y a des choses qui nous rendent tristes. Évidemment, ça nous rend tristes lorsque quelqu'un de notre famille qu'on aime bien peut tomber malade, ou a le cancer, tout ça, on a le cœur brisé. Évidemment, mais à quelque part dans notre cœur, il reste une joie qui est parfaite, indescriptible. Jésus l'a dit, je vous donne une joie parfaite. Je ne donne pas comme le monde donne. Je donne une joie indescriptible. C'est une joie parfaite qui vient du Seigneur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. En d'autres mots, ça va pas bien, colle-toi au Seigneur. Puis tu sais quoi, voici ce que je te promets. Avec une attitude de reconnaissance, d'action de grâce, sachant que je suis au contrôle. Et la paix de Dieu qui surpasse ce que l'on peut comprendre. Voyez le mot? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En d'autres mots, je place ma garde autour de toi. Viens, confier à moi. Ouvre-moi ton cœur. Colle-toi à moi. Et moi, je te garde. Tu es dans mes bras. Je te protège. Tu es sous haute surveillance. Là, je devrais entendre des amen, frères et sœurs. Quelle bonne nouvelle. Dieu te garde. Il garde son œil sur toi. Il veille sur toi. Alors, en ce jour de Pâques, on veut adorer Dieu parce que par sa grâce et sa bonté, Dieu nous change profondément à travers la résurrection. Il nous donne une vie nouvelle, une espérance vivante, un héritage qui est riche, qui est gardé pour nous et nous sommes gardés pour lui. À travers la résurrection, Dieu nous change. Quel changement, quel impact, mon ami. Et c'est tellement beau d'entendre des gens qui viennent de placer leur foi en Jésus-Christ, les nouveaux chrétiens. Écoute, un nouveau chrétien, mon ami, il découvre comment Dieu est vivant dans sa vie, puis comment Dieu est en train de faire des changements puissants dans sa vie. Ça m'est arrivé encore hier soir. Je reçois un téléphone chez nous hier soir, puis il y avait justement un frère, un chrétien qui vient à l'église maintenant ici, il vient de se convertir il y a tout récemment. D'ailleurs, il va se faire baptiser prochainement. Il suit un cours de baptême. Et puis, et là, il était tout excité. Il dit, écoute, faut que je t'appelle. Écoute, faut que je te parle. Il dit, faut absolument que je te parle. Il s'est passé quelque chose dans mon bureau. Il dit, puis lui, il est en train de découvrir tout ce que Dieu est en train de faire. Tu sais, comment Dieu est vivant, comment Dieu est en train de bouleverser sa vie. Il dit, Normand, j'en reviens pas. Il dit, regarde bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Il dit, je travaille. Il dit, on était 5 collègues de travail à mon bureau. Puis les gars, ça commence à se répandre dans son bureau qui a commencé à aller à l'église. Alors, il y a un gars sur un ton un peu ironique, moqueur. Il dit, hey, toi, tu t'en vas-tu à ton église demain matin? C'est Pâques! Fait que lui, il dit, non, il dit, demain matin, il dit, je travaille, il dit, mais je suis allé vendredi soir, par exemple. Là, les gars sont tous là, OK, les gars sont là, collègues de travail. Il dit, mais je suis allé vendredi soir, par exemple, il y avait un service de vendredi saint, j'étais là. Oui, écoute, la crucifixion, j'étais là. Ah, fait que là, les gars ont continué à parler, puis ça, finalement, tranquillement, les gars se sont tournés, mais il y en a un de la gang, qui s'en va le voir en coulisses après, s'en va le voir, il dit, hey, écoute, il dit... Il dit, ça se parle ici, tu t'en vas dans une église, là. Parle-moi donc de ça, cette église-là. C'est quoi cette affaire-là? Bon, il dit, c'est une église baptiste. Une église baptiste, puis il dit, l'église baptiste évangélique, là, c'est à Gatineau, l'église de Sentier. Il dit, c'est quoi que vous croyez, vous autres? C'est quoi qui enseigne là-bas? Puis c'est quoi qui croit là-bas? Explique-moi donc ça, c'est quoi la différence, tout? Ah! Il dit, c'est pas compliqué! C'est un nouveau! C'est pas chrétien. Fait que, lui, c'est dans ses mots, tout, puis, fait que là, il dit, hey, c'est pas compliqué! Il dit, écoute bien! Il dit, nous autres, ce qu'on enseigne, ce qu'on découvre dans la Bible, là, c'est que pour être sauvé, pour que tu sois sauvé, mon gars, là, il faut que tu places ta foi en Jésus. On est sauvé uniquement par la foi. Hein? Il dit, voyons là, il dit, sauvé par la foi, il dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il dit, ben voyons là, il faut faire des bonnes œuvres. Il dit, non. Il dit, non, il dit, écoute bien. Là, il me dit, normalement, il dit, moi, j'ai donné ce que j'apprends au cours de baptême. Il dit, là, je viens d'apprendre ça, là, au cours de baptême. On me dit ça, puis c'est vrai, les Écritures, c'est vraiment bon. Il dit, non. Il dit, non, il n'y a pas question. Non, pas par les œuvres, là. Attends un peu, là. Puis il parle comme ça. Il dit, attends un peu, là. Il dit, il y avait deux larrons à côté de Jésus sur la croix. D'accord? C'était des criminels. Hey, ils ont été des criminels toute leur vie. Ils méritent d'être là. Puis il y en a un, à la dernière minute, il a placé sa foi en Jésus. Et sais-tu qu'est-ce que Jésus a dit? Non, hein? Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Oh boy. Le gars est là, puis il dit, wow. Puis il dit, là, tu vas venir à mon église, là. Là, tu vas venir voir mon église. Ah, OK. Ouais. C'est tellement beau de voir. Puis là, il me parle au téléphone, il me dit, normalement, c'est incroyable le changement dans ma vie. Je suis plus le même. Il dit, même mon langage, hey, écoute, je vais être bien honnête avec toi, notamment avant, là, j'étais avec, hey boy, il dit, c'est comme, t'as pas trop, là. Il dit, fou, il dit, en tout cas, il dit, le Seigneur m'a vraiment changé, c'est pas pareil, puis tout, puis il dit, je veux être un bon témoignage, tu sais, puis etc., puis, hey, écoute, le changement, l'impact, mes amis, l'impact de la transformation que Dieu fait à travers la résurrection. C'est glorieux. C'est pour ça que Pierre ne peut pas se retenir. Pierre est en train de glorifier le Seigneur. Sais-tu que si tu étais pour vivre au premier siècle à Rome, il y avait un dépotoir dans la périphérie de Rome. Et tu pouvais sortir de la ville et tu voyais un dépotoir de poubelles. Gros dépotoir de poubelles. Vous savez ce qu'il y avait dans les dépotoirs de poubelles? Il n'y avait pas juste des poubelles. On allait porter des enfants vivants qu'on abandonnait. C'était l'infanticide. On abandonnait les enfants, puis c'était courant. Des milliers d'enfants qui sont morts. On laissait les enfants là, des bébés garçons, des bébés filles, on les laissait mourir, crever de faim, dans les poubelles. Les propriétaires de maisons d'esclaves allaient au dépotoir, dans les poubelles, chercher les enfants, les bébés, puis les ramenaient pour les élever, les nourrir, afin d'en faire des esclaves plus tard. Les maisons closes, les maisons de prostitution allaient dans les poubelles retrouver des petites filles, retrouver des bébés, les prendre, les élever, les nourrir, afin d'en faire des esclaves sexuels. Vous savez ce que les chrétiens faisaient? Touchés par l'amour et la grâce de Dieu, les chrétiens allaient dans les dépotoirs, aller retrouver ces bébés, que ce soit des petits gars ou des petites filles, les prendre, les aimer, les emmener chez eux, les nourrir, les adopter dans leur famille. Mes chers amis, les chrétiens, l'impact du christianisme sur le monde, c'est incroyable. Vous savez que ce sont les chrétiens, comme je vous disais déjà d'ailleurs avant les fêtes, ce sont les chrétiens qui ont fait abolir un tas de choses qui étaient immorales, mais qui étaient considérées dans le temps correctes. Mais ce sont les chrétiens qui ont renversé le courant, puis qui ont fait en sorte que l'infanticide et bien d'autres choses, comme les jeux gladiateurs et bien d'autres choses, comme je l'avais montré, ce sont les chrétiens qui ont fait cesser ça et rendre ça illégal. Vous savez qu'un homme, un auteur d'un certain livre qui s'appelle God in My Everything, Ken Shigematsu, raconte que n'importe quelle famille démunie, qui n'avait pas d'argent pour manger, qui était pauvre, savait, dans la société de l'époque, qu'ils pouvaient aller cogner à la porte des chrétiens, puis eux autres ouvriraient la porte et allaient te nourrir. On raconte d'ailleurs, ce même auteur raconte d'ailleurs qu'en l'an 250, il y a eu des chrétiens qui se sont convertis et tout ça. Lorsqu'une famille de démunis allait cogner à la porte d'un chrétien, si le chrétien n'avait pas assez d'argent pour le nourrir, vous savez ce qu'il faisait? Ils étaient réputés pour ça, ils étaient reconnus pour ça. Ce que le chrétien faisait, il se privait de nourriture et sa famille et lui, jusqu'à temps, en d'autres mots, il jeûnait jusqu'à ce qu'il ait assez de nourriture pour nourrir tout le monde ensemble, y compris la famille qui avait cogné à sa porte, un étranger. Si bien qu'on raconte qu'en l'an 250, on décompte 10 000 chrétiens qui se sont privés de nourriture, qui ont jeûné l'équivalent de 100 jours dans un an. Écoutez, 100 jours, alors, pas collé, éparpillé dans l'année. 100 jours, 10 000 chrétiens se sont privés de nourriture pendant 100 jours pour donner 1 million de repas à des familles démunies. Laissez-moi vous dire, mon ami, la société devrait dire merci à Jésus pour son impact dans le monde, parce que la résurrection a tout changé. Et la résurrection nous change. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ça. Amen. Et Seigneur notre Dieu, en cette grande journée où nous célébrons la Pâque, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer, te glorifier, Seigneur. Nous te devons tout. Tu t'es penché sur nous. Tu as envoyé ton Fils unique pour nous, Seigneur, parce que tu nous aimes. On ne le méritait pas, Seigneur, mais c'est juste ton amour, juste parce que tu nous aimes. C'est ta grâce, c'est ta grande bonté t'as quitté le ciel, t'as envoyé ton propre Fils unique mourir pour des pécheurs, afin de nous sauver et nous donner la vie éternelle. Ô Seigneur, veuille accepter nos louanges ce matin. Nous te devons tout. Nous t'aimons, Seigneur. Gloire à toi. Amen.